Et si on ouvrait le livre des livres, est-ce que vous avez vos Bibles? Parce que je vais vous faire voyager dans la Bible. Prenez des stylos, prenez des papiers, des références, il y en aura un. Et juste un verset, un premier verset en introduction à ce que j'aimerais partager avec vous. Matthieu chapitre 24 et le verset 43. Matthieu chapitre 24 et le verset 43. Je vous laisse le temps de chercher. Et vous me connaissez maintenant, j'aime beaucoup entendre ce bruit de feuilles. Je regarde les ados et je regarde si le contrat est respecté en leur demandant de ne pas avoir de portable, mais de pouvoir avoir la Bible version papier. C'est important pour après qu'on puisse s'entraîner à chercher les différents livres et pas confondre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc c'est bien de pouvoir avoir la version papier. Matthieu chapitre 24, juste le verset 43. C'est Jésus qui parle, il dit « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, qu'est-ce qu'il ferait ? Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Alors vous l'avez peut-être deviné, j'aimerais aujourd'hui vous parler des voleurs. Des voleurs dans la vie chrétienne. Oh, il y en a qui me regardent avec déjà des gros yeux. Et en effet, il y a des voleurs qui sont à surveiller, j'ai envie de dire, comme le lait sur le feu, car ces mêmes voleurs essaieront par tous les moyens de percer la maison de notre cœur afin d'y dérober, excusez-moi, les précieux trésors que le Seigneur lui-même a placés dans nos vies, dans nos cœurs. Certainement, plusieurs d'entre vous pourraient me dire « Mais de quel voleur veux-tu parler ?» Eh bien, j'en ai ce matin juste recensé trois. Peut-être la liste aurait pu être plus longue. Mais il y en a au moins un que eh bien vous soupçonnez, un qui est assez facile à identifier, c'est le diable. Et nous lisons ensemble ce que Jésus a dit concernant le diable. Il l'a présenté comme étant un voleur redoutable, qui en plus de ça fait des ravages partout où il passe. Si on laisse le diable entrer, il fera immanquablement des ravages, parce qu'il est le destructeur. Et il nous est dit, dans Jean chapitre 10 et le verset 10, la vérité suivante, c'est Jésus qui parle, il va dire « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et heureusement, il rajoute, et il parle de lui, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Béni soit Dieu lorsque vous invitez Christ à venir dans votre cœur. Pas une religion. On n'a pas besoin d'une religion. On a besoin de laisser entrer Jésus le roi de gloire, comme on l'a chanté bien tout à l'heure. Tandis que le voleur qui est le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et en effet, le diable est avant tout un voleur d'adoration. Permettez-moi de le dire. Le voleur est avant tout un voleur, le diable est avant tout un voleur d'adoration. La chose que le diable cherche à faire en nous, avant toute chose, c'est de détourner l'adoration qui revient à Dieu pour se l'accaparer à sa personne. Le diable cherche à ce que l'homme, en général, l'adore de gré ou de force, consciemment ou inconsciemment. Alors que je préparais ce message, je repensais aux trois amis de Daniel. Connaissez-vous leurs noms ? Meshach, Shadrach et Abednego. Et en leur temps, alors qu'ils étaient dans un contexte particulier, puisqu'ils étaient à Babylone, il leur avait été imposé de pouvoir se prosterner devant cette statue qui faisait environ 30 mètres de haut, cette statue en or. Et on leur demandait de se prosterner devant cette statue sous peine de mort. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Plus tard, pour la grande tribulation, gloire à Dieu, l'Église ne sera pas là, mais pour la grande tribulation, il sera imposé de pouvoir adorer l'image de la bête sous peine de mort. De gré ou de force, le diable cherchera, tel un voleur, à pouvoir s'accaparer la gloire et l'adoration qui revient à Dieu. Voulez-vous connaître l'importance de l'adoration aux yeux du diable ? Il faut juste lire Matthieu chapitre 4, les versets 8 et 9. Vous allez comprendre. que ce qu'on fait, même le matin, n'est pas une option. Lorsqu'on ouvre la bouche, lorsqu'on se plaît à adorer Dieu, c'est tellement, tellement important. Le diable vient et il tente de plusieurs façons le Seigneur Jésus. Et sa tentation ultime, alors que Jésus est avec lui dans le désert, la Bible nous dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. J'ouvre et je ferme rapidement la parenthèse. Il dit, je te donnerai toutes ces choses. Ce sont des choses qu'il a volées. Et c'est vrai que Jésus a dit que le monde entier est sous la puissance du malin. À cause du péché, le diable s'est rendu influent sur ce monde. Le maître restera toujours incontesté, c'est le Seigneur Jésus. Mais le diable va dire, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable était donc prêt à offrir à Jésus, le Fils de Dieu, tous les royaumes de la terre, en échange d'une chose, l'adoration de Jésus. Voyez l'importance de l'adoration. Même tous les royaumes de la terre, avec toute leur richesse, ne peuvent être comparés à l'adoration personnelle, volontaire de nos cœurs. Et je crois que le Seigneur, il s'attend à ce que nous puissions exceller dans cette adoration, qui, vous le savez, doit être exclusivement réservée à Dieu. C'est d'ailleurs la réponse que Jésus a donnée au diable quand il dit, juste le verset suivant, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Mon adoration, ma voix, mon cœur, ma vie, c'est pour adorer, alléluia, Dieu notre Père. Adorer Dieu, c'est ce que les anges font constamment dans le ciel. C'est ce que nous ferons, c'est ce que nous serons appelés à faire aussi lorsque nous serons dans ce paradis que Dieu a préparé. D'éternité en éternité, nous adorerons Dieu. Et nous ne le ferons pas par contrainte, nous le ferons avec une grande joie. On sera vraiment plus que, alléluia, ébahi, extasié dans la présence divine de Dieu. Il y a des choses qui nous attendent là-haut, on ne pourrait même pas les décrire. Tellement elles sont glorieuses, tellement elles sont merveilleuses. Au sens le plus large du terme, adorer Dieu dans notre vie consiste à révérer Dieu avec un grand respect. Le respecter, le craindre comme il se doit. Ça consiste également, on peut le dire, et je l'ai placé aussi sur mes notes, à obéir à Dieu avec joie. Là aussi, pas par contrainte, mais avec joie. Quand j'obéis à ce que Dieu me demande avec joie, je suis ni plus ni moins en train d'adorer Dieu dans le sens le plus large du terme. Servir Dieu de tout notre cœur, là aussi, au travers d'une fonction dans l'Église, tout cela, bien sûr, consiste à adorer Dieu. Aimer Dieu avec passion, c'est ça, adorer Dieu. Et quand notre sœur disait tout à l'heure qu'elle aimait Dieu avant toute chose, on le sent, c'est avec le cœur qu'elle parle. Elle était en train d'adorer Dieu. Frères et sœurs, ne laissons pas le diable venir dérober l'adoration qui est là dans notre cœur et qui doit être exclusivement, alléluia, le partage de notre Dieu. Amen, frères et sœurs. Un voleur qui vient pour voler l'adoration, mais le diable aussi est ce voleur qui vient dérober la semence divine, la parole de Dieu. On peut lire dans Luc chapitre 8 et le verset 5 la vérité suivante. Jésus qui raconte une parabole, la parabole du semeur et des terrains. Et il est là devant ses disciples et il va dire, entre autres, un semeur sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et puis un peu plus bas, pour apporter l'explication de cette même parabole, il va dire dans Luc chapitre 8, verset 12, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, sous-entendu qui entendent la parole. Puis le diable vient, et qu'est-ce qu'il fait le diable? Il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » La semence ici, je l'ai déjà dit, c'est la parole de Dieu, qui est, comme le dit le verset 12, source de foi et de salut. Le simple fait d'écouter la parole de Dieu, vous vous mettez en contact avec les paroles mêmes qui sont sorties du cœur de Dieu. Et si notre cœur est ouvert, cette parole a le pouvoir de fortifier notre foi, de susciter notre foi. et même mieux, de nous amener au salut. C'est ce qui est écrit et c'est ce que le diable craint. Et lui, le diable, le voleur, va tout faire pour essayer de vous empêcher de recevoir le bénéfice de cette parole. Est-ce que vous comprenez pourquoi, quand dans votre vie de chaque jour, lorsque vous vous disciplinez à une heure particulière de pouvoir lire la parole de Dieu, bizarrement, c'est là où le téléphone sonne. Bizarrement, c'est là où on commence à bâiller. Oh. Et puis, juste quand on a fini la parole de Dieu, on repart, on refait autre chose, il n'y a plus fatigue. Vous n'avez pas vu que ce n'est pas un peu bizarre, ça? C'est là où les soucis reviennent. C'est là où on a du mal à plonger nos regards dans la parole de Dieu comme Dieu nous le demande, pas lire la parole de Dieu d'une manière superficielle. Faites l'essai. Vous, peut-être qui vous n'êtes pas encore mis à pleinement lire la parole de Dieu. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Placez des temps pour lire la parole de Dieu. Vous allez voir l'opposition. De peur qu'il ne croie et soit sauvé. Vous savez, ce livre, s'il y a un qui le connaît, c'est bien le diable. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il l'a cité et il sait les bénédictions qui sont confinées dans cette parole et qui sont notre partage. Mais pourvu que nous soyons en contact donc, de cette parole, les empêchements surviennent lorsqu'on veut lire la parole de Dieu, la fatigue. Et puis même, d'une manière générale, peut-être certaines personnes ont plus ce goût à la parole de Dieu, un manque d'appétit pour la parole de Dieu. Et c'est peut-être le diable qui a enlevé cet appétit pour la parole de Dieu dans votre cœur. Un peu comme les Hébreux dans le désert, rappelez-vous, ils étaient au cœur même d'un miracle. Chaque matin, ils se levaient et pouvaient ramasser la manne qui se trouvait sur le sol. Puis à un moment donné, ils en ont eu marre. On est, en s'adressant à Moïse, on est dégoûté de cette misérable nourriture, vont-ils dire. Que Dieu nous garde d'avoir ce dégoût de la parole de Dieu, mais que nous soyons toujours amoureux de la parole de Dieu. Je rejoins ce que ma sœur a dit, Malika. Quelquefois, on ne réalise pas le privilège que nous avons d'avoir la parole de Dieu et d'avoir à tout moment l'occasion de pouvoir la lire, la méditer. Je me rappellerai toujours de cette chrétienne, anciennement musulmane, convertie à Dieu. Elle était la seule dans sa famille. Et on était au travers d'une formation à l'époque, et on lui a donné la parole, elle a donné son témoignage. Et avec larmes, elle disait, quand elle s'est convertie à Dieu à cause de sa famille, qui exerçait une certaine pression et qui la menaçait même de mort, si elle trouvait cette même personne en train de lire la parole de Dieu, elle était obligée quelquefois de se cacher. Elle le dit elle-même, de se cacher dans une petite pièce, même dans un petit placard qu'il y avait dans cette maison, pour lire quelques pages de la Bible. Elle ne pouvait pas la voir en gros, en grandeur. Elle était obligée de déchirer un petit morceau de la Bible et puis de prier Dieu, « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi juste l'occasion de lire quelques versets et que je ne sois pas surpris par ma famille. » Elle était menacée de mort. Elle le disait avec pleurs, avec larmes. Et nous avons ce bénéfice, et merci Seigneur pour cette liberté que nous avons en France, de pouvoir lire la parole de Dieu. Le diable fera tout pour que nous soyons éloignés de cette parole qui est capable de nous apporter la vie. Le diable t'a-t-il volé le désir de méditer la parole de Dieu ? Mon frère, ma sœur, retrouve ce désir. On dit souvent que l'appétit revient en mangeant. Remets-toi à table. Mets ta serviette spirituelle devant la parole de Dieu qui est ce pain. On l'a entendu tout à l'heure. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Parce qu'au travers de ces pages, Jésus veut nous parler. Jésus veut faire sortir ces versets et les imprimer dans notre cœur. Il y a ce passage dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, qui nous dit la chose suivante. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. » On peut continuer à parler du voleur qu'est le diable. On a vu que c'est ce voleur qui vient dérober notre adoration, ce voleur qui vient dérober la semence, mais on peut aussi rajouter que c'est aussi un voleur de temps. Exode chapitre 1, versets 8 à 14, nous le confirme. Le diable est également un voleur de temps. On peut le lire ensemble, Exode chapitre 1, du verset 8 à 14. Ça vaut le coup de le lire. Il nous a dit quoi? Exode chapitre 1, du verset 8 à 14. Je vous laisse le temps de le chercher. Exode se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le deuxième livre de la Bible, pour ceux qui ne le savent pas. Exode chapitre 1, du verset 8 jusqu'au verset 14. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus, autrement dit, on accablait le peuple de Dieu, le peuple hébreu, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Frères et sœurs, si nous ne nous disciplinons pas à utiliser notre temps pour Dieu et les choses de Dieu, le diable, avec ruse, lui le voleur, se chargera de combler notre temps par toutes sortes de choses vaines et secondaires. Un exemple parmi tant d'autres, le diable peut essayer de nous séduire par les plaisirs et les vanités de ce monde pour que nous nous détournions subtilement de Dieu. Il va nous affairer, il va mettre eh bien, dans notre cœur et sur nos épaules, et oui, surtout dans notre cœur, eh bien, des choses pour nous détourner de l'essentiel et pour que notre temps eh bien, soit mal employé, mal utilisé. La Bible dit, 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 à 5. Regardez ce qu'il est dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi ? Parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Un conseil, éloigne-toi de ces hommes-là. On arrive dans un contexte où, bien sûr, le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Et dans ce contexte, les gens auront eh bien, plus d'amour pour les choses de ce monde, pour Dieu, plutôt que pour Dieu. Et c'est une réalité. Et s'ils aiment le plaisir plus que Dieu, c'est que le plaisir possède la première place dans leur cœur. Et ce qui prend le plus de temps dans ta vie, c'est aussi ce qui occupe la première place dans ton cœur. Or, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous encourage à faire ? De nous affectionner aux choses d'en haut. Il y a ce passage dans Colossiens 3, versets 1 à 5, qui nous le rappelle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et l'apôtre Paul continue en disant, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit et ce que je ne veux pas dire. Merci Seigneur pour les plaisirs qu'on peut avoir dans ce bas monde. Il y a de belles choses. On peut prendre le temps pour bien apprécier la nature, pour se détendre d'une manière ou d'une autre. Mais notre priorité, c'est quoi ? Dieu ou les plaisirs de ce monde ? Et quelquefois des plaisirs vains de ce monde. C'est tellement important de pouvoir considérer que le Seigneur, il doit avoir la première place dans nos vies. Afin que eh bien, notre temps soit plutôt employé eh bien pour le salut des âmes, pour l'avancement du royaume des cieux, plutôt que des choses qui sont secondaires et que nous n'emporterons pas eh bien au paradis, c'est le cas de le dire. Que Dieu nous donne du discernement afin que nous puissions savoir gérer notre temps. Amen, frères et sœurs. On va arrêter là avec ce premier voleur, le diable, pour parler d'un deuxième voleur. Et au risque peut-être de choquer plusieurs, ce deuxième voleur, c'est notre prochain, c'est notre semblable, quand je vois des yeux encore plus gros écarquillés. Oui, même notre semblable, consciemment ou souvent inconsciemment, peut aussi nous dépouiller de notre temps. Par quoi, par exemple ? Par les palabres, par les cancans, j'ai mis sur mes notes par les futilités, les discours vains, discussions stériles et oiseuses, le téléphone sonne. Bizarrement, c'est au moment où on voulait lire la parole de Dieu, le téléphone sonne. Et c'est un tel ou une telle qui appelle. Pas pour dire, mon frère, ma sœur, ce serait bien compris ensemble. Non. Prends le téléphone et c'est parti. Tu as vu un tel ? Tu as vu une telle ? Tu as vu comment elle est habillée dimanche ? Tu as vu comment le pasteur il a parlé longuement ? Tu as vu ceci ? Tu as vu cela ? Tu as vu les chants ? Oh, c'était trop fort ! Oh, il faisait trop chaud, etc. Cancan, palabre, futilité. Frères et sœurs, ayons ce matin du discernement. Il y a toutes sortes de voleurs. De Timothée, chapitre 2, versets 14 à 17, regardez ce que l'apôtre Paul dit à ce jeune serviteur de Dieu. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Même les versets 16 et 17 nous disent la chose suivante. De Timothée, chapitre 2, versets 16 et 17, ne le cherchez pas. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète. Et Hyménée et Philète étaient au départ bien dans le corps de Dieu. Et puis à un moment donné, insidieusement, ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés loin bien de la foi, loin du but à atteindre. Moi, je suis étonné quand je vois cet autre passage, faisant mention des Athéniens. Acte chapitre 17, verset 21, regardez ce qu'il est dit. Acte 17, verset 21. « Or tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Là encore, palabre, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, échanger les dernières nouvelles. « Or tu sais pas quoi ? Il y a ceci, il y a cela, telle politique, tel ceci, tel cela. » Et insidieusement, on peut perdre notre temps et finalement se laisser voler notre temps. Veillons à ne pas nous laisser détourner de notre objectif. Et quel est notre objectif ? Accomplir la volonté de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui a pas voulu se laisser détourner, influencer par qui que ce soit. C'est cet homme de Dieu, Néhémie. Néhémie qui a eu à cœur de pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem. Et il s'est appliqué à se concentrer sur ce que Dieu avait placé sur son cœur. Et nous lisons ensemble Néhémie chapitre 6 du verset 1 à 3. Je vous l'ai dit, je vous l'ai prévenu tout à l'heure, j'allais vous donner des versets. Néhémie chapitre 6 verset 1 à 3, regardez ce qu'il est dit. Néhémie chapitre 6 verset 1 à 3, je vais le lire dans la Bible. Néhémie. Chapitre 6, du verset 1 à 3. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire : Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Nul besoin d'aller plus loin. Mais regardez cette réponse qui doit être aussi la nôtre. Alors qu'on lui demande, qu'on essaye de le détourner du travail auquel Dieu l'avait appelé, il va envoyer lui-même des messagers et va dire à ceux qui finalement cherchaient à lui faire du mal, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre, le travail serait interrompu. Autrement dit, je ne peux pas perdre du temps. Le temps est compté. Vous savez qu'on n'a qu'une vie. Et un jour, on comparaîtra devant le Seigneur, devant ce tribunal de Christ, non pas pour remettre en cause notre salut, mais pour recevoir d'éventuelles récompenses. Et notre récompense sera fonction de ce que nous aurons fait ici-bas. Et personnellement, je ne voudrais pas être confus lorsque je comparaîtrai devant le Seigneur et la tête baissée et dire au Seigneur, je n'ai rien fait pour toi. Nous sommes en droit de dire avec un grand discernement, eh bien, nous sommes en droit de dire à ceux qui essayent eh bien, de voler notre temps, en toute sagesse, en toute douceur, j'ai un grand ouvrage à exécuter. Et l'ouvrage que Dieu nous a confié, c'est de pouvoir travailler au salut des âmes, frères et sœurs. C'est de pouvoir déjà nous-mêmes travailler à notre salut, et ça prend du temps. Dans notre quotidien, je disais à quelqu'un, il ne faut pas qu'on se satisfait eh bien, seulement eh bien, de nos réunions plénières. Béni soit Dieu pour les réunions plénières. Mais le travail de notre salut, c'est chaque jour, devant Dieu. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, frères et sœurs. Puissions-nous réaliser le grand ouvrage spirituel que nous avons à exécuter pour Dieu, afin de ne pas perdre de temps, mais au contraire à en gagner, comme le dit l'apôtre Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Je voudrais terminer avec un troisième et dernier voleur. Et est-ce que vous savez de qui je veux faire mention ? On a parlé du diable, on a parlé inconsciemment du prochain, qui peut être aussi quelque part un voleur. Nous-mêmes, terminons par cela, le meilleur pour la fin. Le plus grand voleur à surveiller, c'est peut-être nous-mêmes. Plus exactement, allez, attention, notre vieil homme ou notre vieille nature, qui, par ses convoitises, eh bien, et ses désirs, voudrait nous dérober à Dieu. Vous savez, le vieil homme, il doit être constamment crucifié sur la croix. Et c'est en cela que nous sommes appelés à être identifiés à Christ. Chaque jour, je dois porter ma croix. Mais chaque jour aussi, mon vieil homme doit être constamment crucifié. Je le déclare, l'ancien Joël, il doit rester sur la croix. Et maintenant, je dois vivre en conformité avec la parole de Dieu. Mais vous le savez, le vieil homme qui doit être enfoui, enseveli lors du jour de notre baptême, et c'est un grand nageur. Il revient à la surface bien souvent et il essaye de reprendre ses droits, excusez-moi. Et je voudrais juste vous donner un exemple, je pourrais vous en donner d'autres, mais juste un. Le vieil homme, il revient lorsque eh bien, l'orgueil nous pousse à prendre la gloire de Dieu pour nous l'attribuer. Amen ou pas amen, frères et sœurs. Attention à l'orgueil qui voudrait nous attribuer la gloire qui revient exclusivement à Dieu. J'aime beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, qui nous dit la chose suivante. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue ? Dit l'apôtre Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tiens. Et si tu reconnais que tu l'as reçu, sous-entendu, tu l'as reçu de Dieu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Et c'est là où l'orgueil pourrait s'installer, frères et sœurs. Oui, la grâce de Dieu nous suffit. Mais tout ce que nous pouvons avoir, c'est par pure grâce. Si tu as un don, mon frère, ma sœur, réjouis-toi. C'est une grâce qui nous vient d'en haut. Et c'est clair qu'en retour, eh bien, la gloire de revenir à Dieu. J'ai appris ce verset par cœur. Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu ne l'as pas reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Soyons toujours conscients que si nous sommes ce que nous sommes, comme dit l'apôtre Paul, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Et Seigneur, tout ce que tu m'as accordé, toute capacité, tout don, je veux l'utiliser pour la gloire seule de ton nom. Il y a cet autre passage, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, et c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Nous voudrions glorifier Jésus. Si l'homme, il doit paraître, il doit au contraire s'effacer pour laisser Christ pleinement eh bien, s'élever et grandir parmi nous. Amen, frères et sœurs. Toute la gloire revient à Dieu. D'ailleurs, Jésus eh bien, l'a dit, à qui voulait bien l'entendre, Jésus a dit, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et je crois eh bien, que toute la gloire revient à notre Dieu. Et d'ailleurs, dans le ciel, c'est ce que nous ferons. Nous jetterons même les couronnes que nous aurons reçues de sa part pour nous prosterner devant lui et reconnaître sa grandeur et sa suprématie. En conclusion, je dirais, tous ces voleurs potentiels qu'on a partagés ensemble sont autant de voleurs à surveiller comme le lait sur le feu, afin qu'ils ne viennent pas nous dépouiller. Ou rappelez-vous ce que l'apôtre Paul, plutôt ce que Jean, l'apôtre Jean a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, et même mieux, Jésus lui-même a dit, Apocalypse chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » J'ai envie de dire, afin qu'aucun voleur ne vienne prendre ta couronne. J'ai une autre version, c'est la version Parole vivante qui nous exprime ce verset de la manière suivante. « Mon retour sera soudain, dit Jésus. Tiens ferme ton bien pour que nul ne te le ravisse. » Et que nul ne te ravisse le prix de ta victoire. Le diable s'efforce par tous les moyens d'essayer de nous distraire du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais justement terminer en rappelant qu'il nous faut veiller, car Jésus lui-même reviendra comme un voleur. Lui-même l'a dit dans Apocalypse, chapitre 16, verset 15, j'avais tellement de versets, où Jésus rappelle qu'il viendra d'une manière subite, et il va dire, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Un jour on comparaîtra devant le Seigneur, un jour le Seigneur lui-même, le juste juge, saura faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas, entre les justes et les injustes, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Et là, il n'y aura pas d'à peu près, il n'y aura pas de juste milieu, il y aura les enfants de Dieu et il y aura les autres. Et je prie Dieu pour que nous soyons tous au saint rendez-vous et que rien ni personne ne puisse venir nous dérober la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne de joie qui sera notre partage dans le ciel de gloire. Frères et sœurs, veillons sur ces différents voleurs. On les a cités, oh, c'est vrai, la liste aurait pu être plus longue. Mais déjà, veillons sur le diable qui vient par tous les moyens essayer de nous voler, voler notre temps, voler eh bien, cette parole de Dieu qui doit rester dans notre cœur et qui doit produire son fruit dans notre cœur. Voler l'adoration qui revient à Dieu. Veillons à ce que eh bien, notre prochain, d'aucune manière, puisse venir voler notre temps, parce que ce temps, il est aussi consacré eh bien, pour l'avancement du royaume des cieux. Veillons sur nous-mêmes, sur le vieil homme en particulier, qui voudrait bien souvent reprendre ses droits pour nous empêcher de toujours glorifier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu es à la porte et tu avertis d'une manière ou d'une autre ton peuple. C'est vrai, ta grâce nous suffit et c'est par elle que nous voudrions vivre et Seigneur, être fin prêt pour ton retour. Mais Seigneur, tu laisses pour nous aussi, Seigneur, des avertissements, des conseils, parce que tu nous aimes. Parce que tu voudrais, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, de ceux et de celles qui décolleront et qui partiront à ta rencontre. Seigneur mon Dieu, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu vois nos luttes, nos combats. Tu vois, Seigneur, peut-être ce qui a besoin d'être rectifié. Aide-nous à rectifier le tir. Et comme on l'a chanté ce matin, sonde nos cœurs, sonde nos voix. Aide-nous toujours à nous améliorer, parce que nous voudrions nous rassembler pour être meilleurs et jamais pour être pires. Seigneur, merci encore pour ton intelligence. Et donne-nous, Seigneur Père éternel, de pouvoir mettre en pratique ces choses afin que nous puissions bénéficier de cette joie qui est notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.